RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour et à vos couleurs. Nous voici à nouveau avec le chef Grégory Coutenceau pour le plus grand plaisir de nos papilles et de nos yeux. Bonjour.
Bonjour.
Dans notre première émission, vous nous disiez que trois éléments comptaient pour vous en cuisine après tout. Un bon produit, une bonne cuisson, un bon assaisonnement. J'aurais envie d'ajouter à ces trois éléments incontournables la passion de la cuisine, parce qu'elle exige beaucoup de travail. Alors, il faut l'aimer à la folie pour que ce travail soit vraiment du bonheur. Entrons dans la confidence, si vous le voulez bien, Grégory Coutenceau. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans la cuisine? Quelle est la partie de vous-même la plus comblée?
Mais je crois que pour faire de la bonne cuisine, il faut aimer les gens. Et moi, ce qui me plaît en fait le plus lorsque je fais de la cuisine, c'est de faire plaisir aux gens. Et je crois que c'est fondamental avant ce qu'on a pu dire. C'est vrai que une juste cuisson, un bon assaisonnement, c'est de la technique tout ça.
Ouais.
Mais je crois que de la bonne cuisine, c'est de la cuisine qu'on fait pour les gens qu'on aime et qu'on aime faire plaisir. Je dis souvent à mes équipes, on est les investigateurs d'un moment que les gens vont passer autour d'une table, entre amis ou en famille, et à nous de les combler de bonheur. Et je crois que les gens peuvent le ressentir ça dans l'assiette quand vous aimez transmettre cette joie, cette part de bonheur.
Ah, c'est formidable ce que vous dites. En fait, il faut être un humaniste pour faire une cuisine qui vient du cœur.
Une bonne cuisine, on peut. Après, je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire une cuisine extrêmement technique. Je sais qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus techniques que moi, et je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pense que on analyse et on vit vraiment bien la cuisine de la personne qui l'a fait par l'émotion qu'il a mis à l'intérieur et qu'il a voulu transmettre.
Complètement, je vais faire encore un parallèle avec la peinture, mais c'est la différence que je ferai entre un artisan et un artiste, parce qu'on peut toujours apprendre à bien faire finalement. C'est plus difficile d'apprendre à recevoir des émotions.
Ah mais c'est pour moi c'est d'une évidence, et que quand des fois il y a quelque chose qui peut ne pas aller ou convenir au client, c'est vrai que ça nous blesse. Ça nous blesse pas parce qu'on n'aime pas recevoir, bon ça fait jamais plaisir de pas recevoir un bon avis ou un compliment, mais parce que on a vraiment mis notre cœur et on a voulu bien faire. Et je pense que c'est, en tout cas moi c'est ma règle d'or de mon métier, c'est aimer faire plaisir aux autres.
Et c'est une belle règle. Est-ce que vous pourriez vous passer de la cuisine?
Non, je pense pas. Ben, je me suis jamais posé la question en fait, parce que depuis tout petit je baigne là-dedans et en fait je fais que ça, donc je me suis pas posé la question et j'ai la chance de pas avoir à me la poser, donc je continuerai comme ça.
Continuez. Vous nous avez montré dans les deux premiers volets de notre triptyque cuisine couleur que l'important pour vous est le produit et que la couleur ne doit pas le transformer. Par contre, elle est une composante de votre présentation et donc il est important de la sauvegarder, ce qui n'est pas toujours facile pour nous pauvres néophytes. Alors justement, pourquoi ne pas profiter de la jolie couleur naturelle d'un produit? Et la région, on en a parlé un petit peu, connaît un produit emblématique très coloré, l'angélique. Est-ce que vous savez d'où vient son nom et d'où vient sa couleur?
Alors, sa couleur tout simplement parce que c'est une plante verte hein, qui va pousser dans les marais, donc comme toute plante, je dirais, va fixer la chlorophylle de la lumière, donc sa couleur vient d'ici. L'angélique, pourquoi son nom? Parce qu'au Moyen-Âge, elle s'appelait la plante des anges. Donc pour ça qu'aujourd'hui, ça s'est transformé en angélique, parce que elle était considérée par les villageois ayant des vertus médicinales, antiseptiques. Souvent les jeunes enfants, on les faisait porter autour du cou, voilà, pour les prévenir de certaines maladies, en partie sur les poumons et les intestins. Donc on lui prêtait ses vertus magiques. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la plante des anges, qui est devenue l'angélique aujourd'hui.
Ah, c'est encore plus joli comme ça. Est-ce que là, vous la cuisinez, on a parlé d'un des desserts, vous la cuisinez autrement?
Essentiellement dans les desserts. Essentiellement dans les desserts, je trouve que c'est là qu'elle elle s'accommode et elle se marie le mieux.
Alors, est-ce que vous utilisez d'autres produits colorés de la région si elle nous en offre un?
Alors la région Poitou-Charentes nous offre une palette déjà de produits très importante. C'est une des régions de France où on a le plus grand nombre de produits. Et on va avoir le beurre Poitou-Charentes, où on va avoir ces notes de jaune avec une certaine intensité. On va avoir les huîtres du bassin de Marennes-Oléron, où on va osciller entre le vert et le bleu, hein, selon si elles sont élevées en bassin de Clère. On va avoir le sel de l'île de Ré qui va être d'un blanc brillant et éclatant. On va avoir les carottes de Jarnac qui vont être d'un orangé. Et j'en passe beaucoup.
Toutes les algues vertes.
Toutes les algues vertes, tous les poissons, bien évidemment. Chaque poisson va avoir sa couleur, sa brillance. Et souvent, la brillance est synonyme de fraîcheur, hein, dans le cadre des poissons. Vous avez par exemple, je pense là à une coquille Saint-Jacques, la noix qui va être d'un blanc translucide, et à côté, vous allez avoir le corail qui va être orangé. Voilà, je trouve que la nature, en termes de couleurs, fait plutôt bien les choses.
Oui, chez nous, elle est assez généreuse en matière d'algues. Moi, je connais juste la salicorne. Je suppose que vous l'utilisez. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oh, ben, y a toutes les algues, hein, qui peuvent être utilisées, le varech. Après, la cuisine japonaise est très spécialisée, je veux dire, dans le travail de toutes ces algues. Mais revenons, oui, à la salicorne, je veux dire, qui pousse énormément sur l'île de Ré. C'est un produit qu'on met souvent à l'honneur. J'aime bien la travailler fraîche, parce qu'on la trouve souvent, vous savez, dans des bocaux, parce qu'il y a vraiment une saison pour la ramasser. Après, elle peut être mise comme les cornichons, en fait, un peu en saumure.
On aura un peu vinaigré là.
Voilà, c'est vinaigré, mais c'est utilisé à ce moment-là comme condiment, au même titre que les cornichons, mais je trouve que fraîche, voilà, je veux dire, juste sauté au moment, à l'huile d'olive, on va garder un croquant, une belle couleur et une fraîcheur du produit.
Est-ce que vous allez les chercher vous-même?
Non. Non, non, non. Les journées sont déjà assez longues, alors non, on a des producteurs, bien évidemment, qui nous les ramènent.
Oui. Alors, le poisson, vous me parlez du poisson, je pense au maigre bleu, il apparaît coloré sous l'eau. Dans notre assiette, il perd souvent ses couleurs et c'est bien dommage. Auriez-vous une astuce à nous confier?
Alors non, pas d'astuce, mais je trouve que la couleur qu'il prend dans l'assiette, c'est une très belle couleur, parce que, et en plus ça correspond, je veux dire, à la cuisson juste que je considère pour le poisson. C'est-à-dire qu'il ne va pas être blanc, il ne va pas être cru, hein, donc une couleur assez particulière, un petit peu terne, mais il va être nacré. Et tous ces reflets de nacre dans le poisson, je trouve que ça apporte une harmonie et ça apporte une douceur dans l'assiette qui est très belle d'une part et qui est synonyme de très belle qualité du produit.
On parlait de la pomme de terre vitelotte, les violettes, elle est magnifique. Vous la présentez comment?
Alors la pomme de terre vitelotte, on peut la travailler de plusieurs manières. On peut la faire cuire dans une casserole avec de l'eau. Ensuite, on va l'éplucher parce qu'il va y avoir une peau qui va être assez dense et qui n'est pas particulièrement bonne, un petit peu terreuse en goût. Et ensuite, on va pouvoir détailler des lamelles dedans et les faire sauter au beurre, ou on peut tout simplement réaliser une purée de pommes de terre vitelotte.
À table, à table. Est-ce que vous avez pensé, Grégory Coutenceau, ou est-ce que vous penseriez à des menus à thème couleur? Est-ce que vous pensez que le projet de telle ou telle palette colorée puisse stimuler un cuisinier?
Ça peut être bien évidemment un joli challenge, mais je pense que si on fait de la couleur l'objectif numéro 1, on va perdre beaucoup de choses. Je me rappelle d'une demande qu'on avait pu avoir d'un buffet tout en noir et blanc. C'est-à-dire qu'il avait fallu à ce moment-là farder certains aliments, les transformer. Et c'est là qu'on se rend compte de l'inconscient que l'on a tous. Je dis souvent, il faut que la chose que l'on va voir, que l'on va manger, c'est la couleur du produit, parce que ça conditionne le cerveau. Vous vous attendez à manger une tomate ou une carotte, vous attendez que ce soit orange ou rouge, et que ça conditionne. Que si vous avez un produit, par exemple de la carotte, que par telle ou telle méthode, vous l'avez transformé en noir ou en blanc, pour reprendre cet exemple, vous allez perdre les gens, vous allez perdre, et en fait, c'est pas, et in fine, c'est pas une réussite.
Ou alors, faudrait faire un buffet avec que de la truffe. C'est un petit peu difficile,
Ah ben
peut-être.
là oui, c'est possible, ça serait très bon, mais ça serait plus cher.
Alors, à propos de choses chères, la couleur or évoque la fête et surtout beau et lumineux. Est-ce que vous utilisez?
Oui, on l'utilise souvent sur des desserts, de la feuille d'or, et en particulier des desserts au chocolat, parce que le contraste entre le chocolat noir et la feuille d'or, je trouve que voilà, il y a une très belle harmonie visuelle.
Oui, alors ces feuilles d'or alimentaire, je suppose que c'est très difficile à utiliser. Est-ce qu'il faut des doigts de fée?
Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui nous vendent ces feuilles d'or ont bien réfléchi. Je veux dire, ces feuilles font quelques microns d'épaisseur, sont stockées entre des feuilles de feutrine, un petit peu, et donc sont assez faciles à utiliser parce que évidemment, ça coûte cher, et
J'imagine.
c'est à utiliser avec précaution.
Oui. Grégory Coutenceau, abordons maintenant un autre sujet. Je veux parler de vos cours de cuisine. Comment sont-ils nés et quelles sont les personnes qui participent?
Ben, les cours de cuisine sont nés, tout à l'heure je vous parlais, des raisons qui me conditionnaient un petit peu à faire ce métier, c'est-à-dire faire plaisir aux gens. Et faire plaisir aux gens, ça veut dire partager un petit peu le bonheur dans l'assiette au restaurant. Et j'ai voulu aller un peu plus loin avec ces cours, c'est-à-dire transmettre mon savoir-faire, ma passion pour la cuisine aux gens qui veulent apprendre certains trucs et astuces en notre compagnie. Et je me rends compte que maintenant, à faire ces cours, ce sont des moments extraordinaires de partage avec les gens et qui sont souvent passionnés par la cuisine, qui ont un vrai souci du produit, qui vont sur les marchés récolter ces beaux produits. Et c'est des moments de... Ah oui, c'est vraiment des moments que j'apprécie énormément.
Oui, on dit bien, là on comprend qu'on reçoit autant qu'on donne. Hein. Mais qui sont-ils? Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes?
Mais il n'y a pas de règle, c'est... Ça va
Tout le
être...
monde est là.
Ah, mais tout le monde est là, si bien qu'on a ouvert des cours un peu plus spécifiques pour les ados, hein, qui sont très demandeurs, et on a même ouvert des cours pour les enfants, pour les 6-11 ans, qui ont vraiment envie de faire de la cuisine. Moi, je vois mon neveu, par exemple, bon, alors il est peut-être dans une famille un petit peu particulière, mais il aime mettre la main à la pâte aussi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de sexe pour la cuisine, il n'y a pas d'âge pour la cuisine, il y a juste aimer faire plaisir aux autres. Et je pense que les gens qui sont là, bah, souvent, j'ai l'impression que ce sont des vrais gentils. Tout ça, c'est parce que ce sont des gens qui aiment partager et transmettre.
Voilà, on en revient à l'ingrédient principal, l'amour de l'autre. Est-ce que vous leur parlez aussi de couleurs à vos élèves? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils y sont sensibles dans leur choix ou dans leur réaction?
Oui, parce que moi, le but, quand on fait ces cours de cuisine, c'est de pas être dans un cours magistral. Je suis pas là pour donner des leçons, je suis simplement là pour les aider, leur donner des petits trucs et des astuces. Et on remarque souvent, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment déjà un bon niveau en cuisine, mais où ça pêche souvent, c'est dans le dressage, c'est-à-dire dans la mise en harmonie de l'assiette. Et on a des gens qui nous demandent de plus en plus si on va avoir des cours qui vont être uniquement basés sur le dressage, comme je vous ai dit, avec simplement un nombre impair. Les gens ont tendance à en mettre beaucoup dans l'assiette, ne pas préserver des zones de blanc. Par exemple, l'aile de l'assiette, souvent on ne doit rien mettre dessus. Je considère que ça donne de l'aération au plat, mais les gens ont tendance à en mettre. Voilà. Et les gens sont très demandeurs aussi de cette mise en perspective dans la présentation.
Ah oui, je comprends. Et ce qui prouve bien que c'est important, la couleur, le dressage. Voyons maintenant l'usage que vous faites de tout ça dans vos restaurants. Comment choisissez-vous les couleurs dans vos décors? Est-ce que vous pensez d'abord aux couleurs ou à une ambiance joyeuse, chaleureuse, épurée? Parlez-nous de vos restaurants.
Moi, j'ai envie que les gens se sentent bien dans mes restaurants, se sentent comme à la maison. Donc, c'est vrai que je privilégie des matériaux assez chauds. Hein, je veux dire, le bois, on l'utilise souvent. J'ai pas envie de faire une démonstration de luxe dans l'établissement. Pour moi, le beau, c'est pas le luxe. Ce qui peut briller, bon. Certaines personnes peuvent considérer ça comme beau, pas moi en tout cas.
On revient à la pomme de Blanche-Neige.
Oui, non, tout à fait. Et j'ai envie que les gens se sentent bien. Je vois par exemple au Flo, quand j'ai repris le restaurant, c'était important pour moi qu'on puisse mettre une cheminée dans l'établissement. Ça a été compliqué d'un point de vue architectural pour pouvoir faire passer les conduits, mais pour moi c'était important. Et quand vous êtes en hiver, que dehors il fait froid, que vous avez un feu de cheminée, que vous avez un très beau plancher en chêne, vous avez beaucoup de bois et des couleurs chaleureuses, tous mes restaurants, par exemple, un mur rouge. Voilà, pour moi c'est... Et souvent le mur rouge, il est mis au niveau des fenêtres. C'est-à-dire que c'est pour préserver les gens, pour qu'ils soient dans un certain cocon quand ils sont dans le restaurant. Ça va dans le même sens que ce que je vous disais pour la cuisine tout à l'heure, c'est essayer d'apporter de la chaleur et du bonheur.
Oui, alors en dehors de ce fameux mur rouge, est-ce que l'ambiance de chacun de vos restaurants est différente ou bien est-ce qu'elle est commandée par le concept général, le thème choisi pour l'établissement?
Alors je pense qu'il y a un fil conducteur qui est cette chaleur de l'établissement, mais bien évidemment, on va être au flot un peu plus dans l'épure, parce qu'on est sur une cuisine un peu plus gastronomique, par rapport à la brasserie de l'entracte, où par définition, ben, on est dans une brasserie où on va attendre certains codes, comme du velours rouge, du laiton, et encore une fois du bois. Il est important on raconte une histoire quand les gens viennent au restaurant, et d'être bien en phase au niveau de toute l'histoire, que ce soit dans la mise en décoration d'établissement, jusque dans la cuisine.
Oui, alors les couleurs de la vaisselle et la tenue des serveurs, est-ce que tout cela est pensé comme un tout?
Ah, mais bien évidemment, c'est un tout. La vaisselle, je vous l'ai déjà dit, pour moi, doit être blanche, pour laisser la place aux produits. Parce que quand on fait de la cuisine, je considère que la star, c'est le produit et non pas l'assiette. Parce qu'on a par exemple au Flo, et j'en discute souvent avec mes cuisiniers, une assiette de présentation qui a des bords en platine, qui est très très belle, mais je considère que c'est une très belle assiette pour être en présentation. Et certaines fois, ils veulent l'utiliser pour dresser un plat. Mais je trouve ça pas beau, en fait. Parce que, je veux dire, c'est tellement prenant que on en perd ce qu'il y a dans l'assiette. Donc tout ça, après je pense que c'est une question de sensibilité, en tout cas c'est la mienne, voilà, de vraiment faire du produit la star.
Voilà, ce qui est important, c'est le contenu
Le
et
contenu, tout
pas
à
le
fait.
contenant. Alors, parlons maintenant de votre boutique, la boutique de Grégory, ou comment cuisiner dans la joie et la couleur. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Alors au niveau de notre école de cuisine, c'est vrai que de façon attenante, on a ouvert une boutique où tout simplement on propose aux gens, parce que ça a été une demande de leur part, tous les produits, c'est-à-dire alimentaires, que l'on travaille dans nos établissements, dans les restaurants, ainsi que le matériel. Souvent ce sont des produits qu'ils ne peuvent pas trouver en grande distribution. Pour moi, ce qui était important, c'était de leur transmettre ce que nous, on avait la chance de pouvoir acheter. Voilà, par exemple, le risotto qu'on va faire venir directement d'Italie avec les huiles d'olive et les olives, qui est un producteur bien spécifique que l'on ne retrouvera pas, on a voulu donner la possibilité aux gens de pouvoir l'acquérir. Et pour moi, voilà, c'était important parce que comme je vous ai dit, on était dans la transmission, on n'est pas là simplement pour faire du business. Après, je veux dire, j'ai une entreprise, donc bien évidemment, il faut que tout ça tourne, mais qu'on aille jusqu'au bout de la démarche qu'on a entreprise et qu'on puisse donner aux gens, voilà, la possibilité la plus grande d'être avec nous.
D'aller jusqu'au bout. Alors pour compléter le portrait du grand chef que vous êtes, Grégory Coutenceau, et vous voir dans votre quotidien avec ses petites et ses grandes histoires, j'aimerais que vous me racontiez une anecdote de celles qui vous marquent, qui sont parfois difficiles à vivre sur le moment, mais dont on sourit après, si vous voulez bien.
Ah oui, on en sourit après, surtout. Mais pas au moment. Je me rappelle lors d'un repas de gala du Grand Pavois. C'était une soirée blanche qu'on avait réalisée avec notre service traiteur. Et à la table d'honneur, malheureusement, on avait un dessert qui était une soupe de fruits rouges et noirs. Et malheureusement, il y a un serveur qui a fait tomber l'assiette sur le costume blanc du préfet. Alors, sur le moment, je peux vous dire
Ça
que
jette un froid.
ça jette un froid, vous rigolez pas, et c'est vrai que 2-3 semaines après, quand vous en reparlez, et surtout quand c'est le préfet qui vous en reparle.
En souriant.
Non, mais vous en rigolez. Après, je veux dire, ça fait partie des souvenirs. Mais souvent, ces bons souvenirs, a posteriori, sur le moment, ils sont pas agréables à vivre.
J'imagine. Alors, est-ce que vous auriez la gentillesse, Grégory Coutenceau, de nous donner une recette, la recette pour à vos couleurs, celle qui vous vient là, haute en couleurs, facile, hein?
Alors, en fait, elle va pas être haute en couleurs, elle va être très belle en couleurs, parce qu'elle va correspondre à la saison. Donc actuellement, c'est la saison des coquilles Saint-Jacques, donc ça va être un carpaccio de coquilles Saint-Jacques avec un tartare de champignons des sous-bois. Donc on va être sur des couleurs, voilà, pas flamboyantes, des couleurs d'automne. Donc on va couper en fines lamelles nos coquilles Saint-Jacques et les mettre en rosace. On va mettre ceci au centre de notre assiette. Ensuite, selon ce que vous aurez récupéré au marché comme champignons, on va les faire tomber donc à l'huile d'olive, hein, dans une poêle. Ensuite, on va les hacher. On va adjoindre à tout ça un petit peu de persil haché, de l'échalote. On va disposer ça en joli cordon autour de notre coquille Saint-Jacques, qu'on va assaisonner d'un filet d'huile d'olive et un jus de citron, un peu de fleur de sel et de piment d'Espelette. Et pour finir l'ensemble, sur les champignons, on va déposer un jus de viande avec des pignons de pin torréfiés.
Heureusement qu'il y a des podcasts pour nos auditeurs, pour réécouter cette bonne recette. Alors pour terminer, Grégory Cotenceau, on va faire un petit questionnaire de questions très rapides pour mieux vous connaître. Si je vous demande quel souvenir en couleur vous vient là?
Alors je me souviens d'un paysage en fait qui m'a beaucoup marqué, c'était la baie de Phang Nga en Thaïlande, comme la baie d'Along, où vous avez une multitude de bleus. Avec la mer, mais également de vert parce que vous avez des forêts d'arbres qui poussent avec les racines dans l'eau. Je veux dire, donc ça a été une palette de vert, de bleu. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs visuels que j'ai pu avoir.
Comment diriez-vous en couleur, pardon?
Le rose.
Je t'aime.
Le rouge.
Oui.
Le vert.
Non.
Le rouge aussi.
Et en Occident, le deuil se porte en noir, comme vous le savez, en Orient, c'est le blanc. À quelle couleur vous aimeriez associer ce temps de la vie qu'est le deuil?
Le noir. Je pense que... Pourquoi le noir? Parce que c'est culturel chez nous, voilà, c'est une habitude. Et vous me posez la question de façon spontanée. Ma réponse spontanée est celle-ci, même si... on pourrait... le blanc allégerait peut-être ces moments difficiles.
À quelle couleur voudriez-vous associer Mozart?
Mais Mozart, c'est pas qu'une seule couleur.
Ah, mais vous avez le droit d'en donner plusieurs.
Parce que Mozart, si c'est le requiem, ça peut être le noir.
Ouais.
Mais ça peut être également des couleurs étincelantes. Hein, je veux dire, quand vous allez être sur la flûte enchantée de Mozart, choses comme ça, où vous avez un rythme et puis une vivacité dans la musique. Je peux pas résumer Mozart à une seule couleur. Ça serait vraiment une palette de couleurs.
De guerre, tout à l'honneur de Mozart, les Beatles.
L'arc-en-ciel.
Pas mal aussi. La plante, l'arbre, l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné pour sa couleur.
Le cèdre bleu du Liban.
Si vous deviez ne manger qu'un seul aliment, lequel choisiriez-vous pour sa couleur, bien sûr?
La mangue.
De quelle couleur sera votre principale qualité?
Le vert clair, je dirais. Pour la générosité, je pense. Mais c'est pas trop à moi de parler de mes qualités.
Alors, votre principal défaut?
Je peux être rancunier. Donc, je dirais le marron.
Ah oui, ça, c'est un défaut. Et si Dieu existe, en quelle couleur le voyez-vous vêtu?
Blanc. Je pense que c'est comme tout à l'heure pour le deuil. Je pense que c'est une habitude voilà, historique et usuelle qui est liée donc, à notre société.
Eh bien, merci infiniment, Grégory Coutenceau. Vous nous avez régalé et on espère pouvoir goûter aussi, en tout cas vous réécouter sur podcast. Merci beaucoup, au revoir.
Merci à vous et bonne journée, au revoir.